français dans les rues, parfois les rues des toutes petites villes. Et ça, c'était pas dicté par l'individualisme. Là, il y a eu vraiment un élan répété de solidarité qui, pour moi, est une victoire absolument formidable contre cette idée de l'individualisme qui, peut-être bien, a été forgée par le monde, on va dire, intellomédiatique, qui, lui, est un monde, effectivement, très individualiste, très concurrentiel, mais qui a projeté sa propre vision du monde sur l'ensemble d'une société et qui, là, ces jours-ci, avec le succès étonnant du bouquin de Stéphane Hessel sur l'indignation, un petit texte court mais fort, mais incisif de Stéphane Hessel, qui est approuvé aussi par 500 000 lecteurs quand même. Ça, bon, ensuite, on a vu l'histoire Cantona aussi, qui veut qu'on aille chercher notre argent dans les banques. Enfin, c'est des petites choses, bien évidemment, par rapport à la grande politique, au grand discours politique péremptoire, mais c'est autant de manifestations qui montrent au moins que l'idée que nous serions tous des individus, au fond, isolés dans notre alvéole, est assez fausse.
Elle est en train d'évoluer, heureusement. C'est-à-dire que de la même manière que, par exemple, la crise écologique, maintenant, ça fait partie de notre culture commune. Mais c'est assez nouveau. Il y a 10 ans, c'était pas du tout le cas. Maintenant, vous rencontrez quand même très peu de gens qui ne sont pas interpellés par la question de la crise écologique. C'est rentré dans notre culture collective. De la même manière, la question des inégalités, depuis 3-4 ans, elle est très claire. Alors qu'il y a 10 ans, c'était pas le cas. Donc ça fait que depuis quelques années qu'on a pris conscience de l'inégalité énorme qui s'est redéveloppée depuis une trentaine d'années. Et puis, d'une certaine manière, cette question de l'individualisme et de la nécessité de retrouver le goût du sens collectif, elle est aussi assez récente. Mais elle est en train de bouger. Donc heureusement que tout ça est en train de bouger. Le fait même que maintenant on parle d'oligarchie de manière claire et qu'on va pouvoir reposer de manière claire la question de la démocratie et comment ensemble nous allons arriver à une délibération et à des décisions communes qui vont nous permettre de faire évoluer notre société, c'est aussi important de pouvoir le redire, de pouvoir en avoir conscience. Mais moi j'avais un mot à dire aussi parce que sur ces... Effectivement, vous avez raison de parler de victoire, même si c'est une victoire un peu au goût amer parce qu'on n'a pas été au bout avec le mouvement des retraites. C'est que d'une part, il y a beaucoup de petites victoires qui se passent et dont les médias ne parlent pas. Je ne sais pas, Laboranza Gambara au Pays Basque, cette chambre d'agriculture autonome qui a gagné contre la justice de l'État, la victoire des paysans contre le vaccin de la fièvre catarrhale à Ralovine, globalement la bataille contre les OGM qui n'est pas encore gagnée, mais on a réussi à stopper l'invasion des OGM en Europe. Il y a des victoires qui se gagnent, il y a des victoires qui se mènent. Et là, la société ne s'en rend pas compte parce qu'une fois de plus, les médias, et c'est pas seulement parce que les journalistes sont individualistes, etc. C'est aussi parce qu'ils sont à leur place, les rédacteurs en chef ou ceux qui ont une voix à quelques exceptions près, sont mis là précisément pour défendre un système de valeurs. Et ce système de valeurs veut aussi dire au peuple, tu n'existes pas. Et quand tu bouges, tu vas aller à l'échec, ça ne va pas tenir, ça va échouer. Et ne pas rendre compte de ces victoires qui se gagnent. Il y a vraiment, dans tout le jeu du régime oligarchique, la question des médias est évidemment tout à fait centrale, parce que quand les gens regardent en moyenne la télévision 3 heures par jour, ou 3h20 par jour, savoir qu'est-ce qu'on injecte dans les tuyaux de la télévision est tout à fait essentiel, parce que c'est aussi là que se forme la conscience collective. Et donc, juste un mot, c'est que médiatiquement, les médias, les journalistes ne rendent pas compte, ne disent pas vraiment à la société ce qu'elle vit. Et ce qui fait qu'on est souvent démunis, parce que dans plein d'endroits, il y a des choses qui se font, il y a des alternatives qui se créent, il y a des expériences qui se réalisent, il y a des bagarres qui se gagnent, mais ça n'est pas porté à la connaissance de tous. Parce qu'évidemment, ça serait dangereux. Si on se rendait compte que le copain là-bas, à 200 km, il est en train de gagner, ça donne des forces pour soi-même mener la bataille.
Alors, des forces face quand même, j'en reviens à votre bouquin et aux chiffres que vous citez sur la puissance de la finance, sur l'emprise de la finance sur l'économie, ces millions de milliards qui circulent à la vitesse de la lumière autour de la planète, sur lesquels nous n'avons aucune prise. Là, on est en train de se réjouir avec des luttes, des mouvements, des solidarités et des prises de conscience qui nous réconfortent. Mais face à ce monstre lâché, celui de la finance qui domine partout, on l'a vu avec la crise de 2007-2008, sur les économies. Vous décrivez le combat d'Obama pour imposer créer une sorte de sécurité sociale aux États-Unis face à la puissance extraordinaire des lobbies et du poids de la finance, de ce monde qui a failli s'effondrer, qu'il a fallu secourir avec des garanties des biens publics.
Qui a été sauvé par l'intervention publique.
Qui a été sauvé par l'intervention publique et qui maintenant...
Reprend
le pouvoir sans qu'on semble être capable de maîtriser cette sorte de monstre absolu.
Vous avez raison, la